Je vous invite à écouter la parole de Dieu. Deux textes. Le premier au livre des Actes des Apôtres, au chapitre 14, les versets 8 à 23. À Lystre se tenait assis un homme impotent des pieds, boiteux de naissance et qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul, et Paul, fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, « Lève-toi droit sur tes pieds !» Et il se leva d'un bond et marcha. À la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit en langue lycaonienne, « Les dieux sous une forme humaine sont descendus vers nous. » Ils appelaient Barnabas Jupiter et Paul Mercure, parce que c'était lui qui portait la parole. Le prêtre de Jupiter, dont le temple était à l'entrée de la ville, amena des taureaux avec des bandelettes vers les portes et voulait de même que la foule offrir un sacrifice. Les apôtres Barnabas et Paul, ayant appris cela, déchirèrent leurs vêtements et ils se précipitèrent au milieu de la foule en s'écriant « Ô homme, pourquoi agissez-vous de la sorte? Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous. » Et vous apportant une bonne nouvelle, nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines pour vous tourner vers le Dieu vivant qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Ce Dieu, dans les âges passés, a laissé toutes les nations suivre leur propre voie, quoiqu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est en faisant du bien, en vous dispensant du ciel les pluies et les saisons fertiles, en vous donnant la nourriture avec abondance et en remplissant vos cœurs de joie. À peine purent-il par ces paroles empêcher la foule de leur offrir un sacrifice. Alors survinrent d'Antioche et d'Icône des Juifs qui gagnèrent la foule et qui, après avoir lapidé Paul, le traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort. Mais les disciples l'ayant entouré, il se leva et entra dans la ville. Le lendemain, il partit pour Derbe avec Barnabas. Quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icône et Antioche, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Il fit renommer des anciens dans chaque église et après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Le second texte se trouve dans le même livre des Actes des Apôtres, mais cette fois au chapitre 17, les versets 15 à 34. Actes des Apôtres, 17, versets 15 à 34. Ceux qui accompagnaient Paul le conduisirent jusqu'à Athènes. Puis ils s'en retournèrent, chargés de transmettre à Silas et à Timothée l'ordre de le rejoindre au plus tôt. Comme Paul les attendait à Athènes, il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter à la vue de cette ville pleine d'idoles. Il s'entretenait donc dans la synagogue avec les Juifs et les hommes craignant Dieu et sur la place publique chaque jour avec ceux qu'il rencontrait. Quelques philosophes épicuriens et stoïciens se mirent à lui parler et les uns disaient « Que veut dire ce discoureur ?» D'autres l'entendaient annoncer Jésus et la résurrection disant « Il semble qu'ils annoncent des divinités étrangères. » Alors ils le prirent et le menèrent à l'aréopage en disant « Pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu enseignes, car tu nous fais entendre des choses étrangères. Nous voudrions donc savoir ce que cela peut être. » Or, tous les Athéniens et les étrangers demeurant à Athènes ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter des nouvelles. Paul, debout au milieu de l'aréopage, dit « Hommes athéniens, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux, car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription à un Dieu inconnu. Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, la respiration et toute chose. Il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes la race. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Lorsqu'ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquèrent et les autres dirent « Nous t'entendrons là-dessus une autre fois ». Ainsi Paul se retira du milieu d'eux. Quelques-uns, cependant, s'attachèrent à lui et crurent. Denis l'Aréopagite, une femme nommée Damaris et d'autres avec eux. Ta parole, Seigneur, est la vérité. Sanctifie-nous par ta vérité. Amen. La conférence de ce soir a donc pour titre « Parole et évangélisation ». Elle va s'articuler autour de deux parties. La première partie porte pour titre « Une image de Dieu » en forme de quête de Dieu. Une image de Dieu en forme de quête de Dieu. La seconde partie, la proclamation de la parole et l'image de Dieu. La proclamation de la parole et l'image de Dieu. Abordant la première partie, une image de Dieu en forme de quête de Dieu, nous voulons dire ce fait qui va un peu résumer toute cette première partie. Dieu est l'éternel tourment des hommes. Dieu, l'éternel tourment des hommes. Cette affirmation peut paraître brutale et certes, elle l'est. Postuler ainsi qu'il y a une quête de Dieu allant jusqu'au tourment, n'est-ce pas se gargariser avec des mots, avec une illusion facile? Il faut avouer qu'autour de nous, les hommes paraissent vivre sans cette préoccupation de Dieu. Cependant, sommes-nous si sûrs qu'il n'y ait pas derrière les grandes négations de la divinité une inquiétude caché, un malaise qui n'avouerait pas son nom? Il y a dans des certitudes agressives de combat contre Dieu que nous avons rencontrées une forme de l'obsession même de Dieu. Écoutez ces paroles du fou qui, d'après Nietzsche, court en plein jour, une lanterne allumée à la main, à la recherche de Dieu. Où est Dieu? Je veux vous le dire, nous l'avons tué, vous et moi. Nous tous, nous sommes ses meurtriers. Mais comment avons-nous fait cela? Comment avons-nous pu boire l'océan? Qui nous a donné l'éponge avec laquelle nous avons effacé tout l'horizon? Qu'avons-nous fait en détachant cette terre de son soleil? Où va-t-elle maintenant? Où allons-nous? Loin de tous les soleils? Ne tombons-nous pas à présent d'une chute ininterrompue? En arrière, de côté, en avant, de tous les côtés? Y a-t-il encore un haut et un bas? N'errons-nous pas à travers un néant infini? Ne sentons-nous pas le souffle de l'immensité vide? Ne fait-il pas plus froid? La nuit ne se fait-elle pas toujours plus noire? Ne faut-il pas allumer des lanternes en plein midi? N'entendez-vous pas déjà le bruit des fossoyeurs qui portent Dieu en terre? Ne sentez-vous pas déjà l'odeur de la pourriture de Dieu, car les dieux aussi pourrissent? Dieu est mort. Nous l'avons tué. Il restera mort. Comment nous consolerons-nous, nous les meurtriers, entre les meurtriers? Ce que ce monde avait de plus sacré, de plus puissant, à saigner sous nos couteaux, qui va laver de nous la tache de ce sang? Avec quelle eau nous purifierons-nous? Quelles fêtes expiatoires, quel jeu sacré nous faudra-t-il inventer? La grandeur de cet acte n'est-elle pas trop grande pour nous? Ne devons-nous pas devenir nous-mêmes des dieux, ne fût-ce que pour paraître dignes de l'avoir accompli? Fin de citation. Voltaire disait: si Dieu n'existait pas, il faudrait l'inventer. Même détruit, Dieu reste l'éternel tourment des hommes. Et Nietzsche sera toute sa vie obsédé par ce seul problème: quel est pour l'homme, quel est pour moi le sens de la vie, étant donné que Dieu n'est pas? Soit positivement, sous forme de besoins spirituels, soit négativement, en creux, comme une lacune, un vide qu'aurait laissé Dieu et qui n'assure aucun répit à l'homme. Dieu en positif ou en négatif ne cesse d'impliquer cette souffrance qui crie vers l'apaisement, ou cette nostalgie de l'être qui n'a plus de visage. Même l'aspiration vers le néant, qui s'exaspère dans une grande partie de nos contemporains, n'est que l'envers du tourment de l'absolu. L'esprit humain est infiniment complexe, et toutes les démarches analytiques qui s'essayent à le démontrer se heurtent toujours au mystère de la personne. L'homme est incurablement religieux. La dimension spirituelle est une composante de sa personne qui le distingue de l'animal. C'est sa prérogative. Il y a dans l'individu ce qui dépasse l'individu. Il y a un instinct religieux inhérent à sa nature d'homme. La pauvre âme humaine cherche à tâtons, sans se lasser, le fil sauveur qui doit la conduire à Dieu. L'homme est touché par cette inquiétude irrésistible qui le tenaille, cette anxiété invincible qui le dévore. Il cherche toujours à tromper cette lacune spirituelle, ce vide divin. Il se questionne Est-ce un dieu dont je garde la mystérieuse nostalgie qui m'inspire ainsi de le chercher et qui voudrait peut-être se faire trouver par moi? Partout et toujours, il y a chez l'homme une soif, une inquiétude, un tourment de quelque chose ou de quelqu'un qui le dépasse. C'est ce que nous appelons le tourment de Dieu. On ne peut échapper à ce tourment qui torpille l'homme, même lorsqu'il s'efforce à en étouffer l'étreinte. Cette quête universelle de Dieu peut être fugitive, vite effacée, refoulée ou bien permanente, lancinante. Elle peut avoir une dominante intellectuelle. Selon ce mot de Voltaire, l'univers m'embarrasse et je ne puis songer que cette horloge existe et n'est point d'horloger. Elle peut également avoir une dominante affective, un sentiment poignant qui ne laisse aucun répit, tel ce vers de Lamartine: je ne suis rien, Seigneur, mais ta soif me dévore. Cette béance creusée dans la vie de l'homme, nous l'affirmons présente en chaque humain. L'homme est marqué au coin par Dieu. Sa griffe est ineffaçable. Elle le constitue comme image de Dieu. Et cette lacune spirituelle qu'il ressent en est la trace. Pascal disait: ce gouffre infini ne peut être rempli que par un objet infini et immuable, c'est-à-dire que par Dieu même. Croyante à une révélation de Dieu, à une parole, que le totalitaire alitère, le Dieu tout autre qu'un autre, a fait imprimer par des hommes dans le livre que vous avez entre vos mains, la Bible, c'est avec la Bible que nous poursuivons notre recherche par cette affirmation lapidaire de l'Ancien Testament. Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Ecclésiaste 3, verset 11. Ou bien, si l'on veut traduire autrement, Dieu a mis dans le cœur de l'homme la soif de l'absolu. Et par le verset 1 du psaume 14, l'insensé dit en son cœur: il n'y a point de Dieu. Puis ce beau texte du Nouveau Testament, dans l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 1, les versets 18 à 23, la colère de Dieu se déchaîne du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, ils ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées. Et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en images représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes, des reptiles. Ces textes nous affirment, nous confirment qu'il y a en l'homme une pré-compréhension de Dieu, même si elle est devenue, à cause du péché qui a tout oblitéré, une mécompréhension. Il y a en l'homme, d'une manière mal définie peut-être, une propension à connaître Dieu. Parce qu'il est imago Dei, parce qu'il est image de Dieu, il y a inscripturé au cœur de l'homme la certitude, au fond, de l'existence de Dieu. Et c'est cette certitude qui le rend inexcusable s'il la trompe pour d'autres dieux que Dieu. Et ne craignons pas les mots. La Bible emploie un mot très grave, c'est un adultère spirituel. L'homme détourne alors illicitement ce qu'il pressent de son vrai but, qui est Dieu. Au terme de cette première partie, sur l'image de Dieu, en forme de quête de Dieu, que nous affirmons avec la Bible présente en chaque homme, qu'il me soit permis de m'adresser à ceux d'entre vous qui, quoique ressentant ce tourment de Dieu, n'ont pas encore relation directe, réconciliation avec le Dieu de Jésus-Christ. L'appel que je vous adresse, mon pressant appel, c'est de réorienter, organiser votre recherche de façon à ce que Dieu et vous soyez effectivement mis en rapport. Ne jouez pas à cache-cache avec Dieu. Il vaut la peine de se poser le problème fondamental de votre vie et de votre destinée. Ce n'est pas un esprit de curiosité intellectuelle que j'essaie de susciter en vous, bien qu'il ait sa place dans votre recherche. Croire en Dieu, ce n'est aucunement pratiquer un sacrifice intellectuel, mais cet ardent désir de trouver, qui est une quête du cœur. Vous connaissez tous le mémorial que Pascal portait sur lui, contre sa peau, cousu dans son vêtement. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, nom des philosophes et des savants, certitude, certitude, sentiment, joie, paix, Dieu de Jésus-Christ. Je ne veux pas ici minimiser les difficultés que les incroyants rencontrent sur le chemin de la foi, mais je veux présenter à vous ce pari qu'il y a correspondance entre la béance de Dieu que vous ressentez et le Dieu de la révélation biblique. La seconde partie de cet exposé, la parole de Dieu en relation avec l'image de Dieu. Parole de Dieu et image de Dieu. Ce texte grandiose, Romains 1, 18 à 23, nous a montré comment les hommes arrivent à se fourvoyer. Toute la création nous révèle la puissance de Dieu. Dieu ainsi est absolument évident. Tout pointe vers Dieu l'indique le signal, tout en parle. L'univers est une symphonie dont chaque chose est une note qui révèle quelque chose de Dieu. La tragédie. Il y a une tragédie. La tragédie est qu'alors qu'il y a au cœur de l'homme, au cœur de chaque homme, une idée de Dieu, un sens de Dieu, l'homme se détourne de ce sens de Dieu pour adorer les idoles. Comme vous l'aurez remarqué, bibliquement, il n'y a pas de vrais athées. Tout le monde croit. Criez-le dans les campus. Tout le monde croit. Seulement, il suffit de savoir en quoi. Tout homme a une religion. Il y a une connaissance supra-théorique, une connaissance religieuse en chaque homme. Religion du verbe religare, relier, ce qui le relie avec l'absolu dans lequel il place sa foi. Ce texte, Proverbe 4, verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Dans l'anthropologie biblique, la science de l'homme, le centre de l'homme est son cœur. Ce que Jésus confirme disant, c'est du dedans, c'est du cœur de l'homme que tout sort. Évangile selon Marc, chapitre 7, verset 20. Toute pensée philosophique ou scientifique dépend absolument d'une religion au fond du cœur. Il n'y a pas d'autonomie de la pensée humaine. Il y a toujours un motif religieux caché. La tâche, frère, sœur, ami, de l'évangélisation sera de démasquer les fausses pistes. Au reste, si j'osais, je dirais que le mot athée ne convient au fond qu'aux chrétiens. Lui seul, au nom de Dieu, démythologise et rejette tous les autres dieux que Dieu. Les premiers chrétiens, le saviez-vous, étaient condamnés pour athéisme parce qu'ils refusaient au nom du seul Jésus d'adorer tout le plérum des divinités romaines. Par le simple fait qu'il est chrétien, le croyant au Dieu de Jésus-Christ se trouve associé au combat de Dieu dont tout l'Ancien Testament nous parle contre les idoles et tous les faux dieux. Mes amis, c'est cette image de Dieu plantée en nous que la parole de Dieu va rejoindre avec l'évangélisation. L'homme n'est pas fils du hasard, donc fils de personne. Il doit son existence à quelqu'un qui peut le rejoindre. La parole prêchée de l'évangélisation rejoint un point de contact en l'homme. La parole de Dieu est le pont jeté par Dieu lui-même entre sa personne, bénie soit-elle, et cette attente en forme de Dieu en nous. vous le comprenez. C'est parce que Dieu a créé l'homme à son image et a donné à l'homme un sens de l'absolu, le sensus divinitatis, cher à Calvin, que la parole de Dieu peut rejoindre l'homme. Ainsi, le message du salut ne s'adresse pas à des êtres indépendants, autonomes, auxquels il serait proposé un choix, mais à des créatures de Dieu, dépendantes de sa volonté et de sa grâce. Quel est le rôle du Saint-Esprit? Le rôle du Saint-Esprit dans la conversion est de redresser, de réorienter la recherche de l'homme de façon à mettre effectivement Dieu et l'homme en rapport. Bibliquement, il y a deux manières d'évangéliser. Selon que l'on s'adresse aux païens ou selon que l'on s'adresse aux juifs. Dans le livre des Actes, lorsque Paul prêche aux païens, il leur parle d'abord du Dieu créateur. Tandis que lorsqu'il évangélise les juifs et les prosélytes, il part du Dieu de l'Alliance pour leur révéler l'identité du Messie. Ainsi, pour les juifs, Dieu est un point d'exclamation. Mais c'est Jésus le problème, le point d'interrogation. Toute la pédagogie de l'évangélisation va consister sur la base du connu, du Dieu le Créateur, d'arriver à la reconnaissance du Christ Jésus. Pour les païens, le problème n'est pas Jésus. Mais c'est le Dieu créateur qui est le gigantesque point d'interrogation. Afin de prêcher Jésus, il faut pédagogiquement et fidèlement reconstituer le cadre en milieu païen du Dieu créateur. Que l'on se comprenne bien, il n'y a pas deux évangiles. Jésus reste Béni es-tu, Seigneur, dans l'une et l'autre forme d'évangélisation, la clé de la proclamation évangélique. Mais il y a bibliquement deux manières d'évangéliser, selon que l'on s'adresse aux païens ou selon que l'on s'adresse aux juifs. Sans oser parler de monde post-chrétien, comme le fait imprudemment peut-être Francis Schaeffer dans son beau livre « La mort dans la cité », imprudemment puisque l'ère dans laquelle nous vivons depuis la visitation par le Fils de Dieu de notre terre est la dernière de l'histoire, il ne saurait y avoir de monde post-chrétien. Sans oser parler de monde post-chrétien, il faut cependant reconnaître que nous vivons en plein humanisme libéral, dans cette contre-culture qui est parvenue à éroder la culture chrétienne de l'Ouest. Et c'est au milieu de ce paganisme moderne qui s'élève comme un défi adressé à toute l'Église de Jésus-Christ, que l'ordre imprescriptible du Christ, que nous n'avons ni à discuter, ni même à justifier, nous atteint. Vous serez mes témoins. Ma surprise dans l'évangélisation aujourd'hui, c'est cette méconnaissance du contexte païen dans lequel nous vivons. Nous prêchons le Christ comme si nous nous adressions à des juifs et à des prosélytes, avec quelquefois en plus cet évangélisme simpliste navrant « Vous êtes malheureux, acceptez Jésus-Christ comme sauveur personnel et vous serez heureux. » Je passe sur cette vision misérabiliste qui, au mépris de la grâce générale de Dieu, veut à tout prix noircir la situation de l'homme séparé de Dieu. Je passe là-dessus pour m'étonner du contenu du message offert. En effet, qui est Jésus ? Je vous le demande pour nos contemporains. Que signifie Christ ? Qu'est-ce qu'un sauveur personnel ? Cette évangélisation pouvait peut-être atteindre les habitants d'un monde de chrétienté pour lesquels Dieu est un donné qui ne fait pas problème. Mais aujourd'hui, mes amis, cette évangélisation ne peut que produire des mal-croyants, si ce n'est les avortés dans la foi que Francis Schaeffer a rencontrés au cours de son ministère et dont il a stigmatisé les évangélistes au Congrès international pour l'évangélisation mondiale en juillet 1974 à Lausanne, ces avortés dans la foi qui avaient fait une expérience avec Jésus, mais qui ne savaient pas qu'il y eut un Dieu. Non, ce n'est pas à des juifs que nous nous adressons pour prêcher l'évangile du Christ aujourd'hui, mais c'est à des païens qui de plus en plus sont là devant nous. Et c'est à eux que nous devons le message du salut. Aux païens, il faut la méthode pour les païens, celle du discours de l'Istre, acte 14, et du discours d'Athènes, acte 17, de discours que nous avons lu. Une évangélisation qui commence par Dieu le Créateur, parce que c'est bien lui qui fait problème à notre génération. C'est avec lui que Dieu lui-même fait commandement à tout homme de se réconcilier. Et ce n'est que lorsque nous aurons proclamé le Dieu créateur et ses attributs, qui il est, sa loi qui nous fait découvrir notre péché, que notre annonce de Jésus-Christ aura un sens pour nos contemporains. Et même là, dire « accepter Jésus-Christ comme sauveur » est une simplification du message du salut. Il faut, au nom de Dieu, oser demander plus, accepter Jésus-Christ comme Seigneur, comme souverain sur le tout de ma personne, sur le tout de ma créativité, sur le tout de l'Église et sur le tout de l'univers. J'ai dit.